Voici Jacinthe et Varel.
Et David Chabot.
Et David Chabot.
Si David est bon, ce qu'on s'est fait dire enfin, cette semaine, qui était exceptionnel, mais peut-être que les prochains pit stops, on aura des beds pour Jacinthe Varel et David Chabot.
On pourrait avoir ça.
Comment ça va, David Chabot?
Ben là, les gars, un bed à moi direct. Ben nous, en fait, là, partagé. Ouais. Non,
tu mérites pas tant d'amour, c'est
non,
ce
non,
que tu
non,
nous
non.
dis?
Non, moi, je ne suis qu'un noble serviteur de la République.
Ouais. Est-ce que un jour tu vas faire de la politique? C'est-tu quelque chose qui est en toi, ça? Est-ce qu'un jour on va pouvoir t'appeler Monsieur le ministre Chabot?
Je te dirais que quand t'as déjà vu comment la saucisse s'est faite, t'as moins le goût de la faire sur le barbecue. Fait que je te laisse déterminer.
C'est une expression que j'avais jamais entendue.
Ouais? Et toi, Jacinthe-Ève?
Ouais. Pas obligé de t'exprimer sa saucisse, là. Mais...
Hein, la politique? Vas-tu t'appeler Madame la ministre un jour?
Première ministre.
La première ministre.
Ah oui, hein?
C'est-tu dans tes aspirations pour de vrai? T'aimerais ça?
Ah, je sais pas.
Non.
Ben...
Attends, là, quand on n'est pas là, là.
Ah, ça te titille, là.
Puis tu regardes les nuages. T'es couché dans le talus, tu regardes les nuages, tu dis un jour, j'aimerais être première ministre du Québec.
Disons qu'à mon âge, j'ai encore beaucoup de temps devant moi pour me lancer en politique.
Ouais.
Alors, je peux rien exclure.
Fermes-tu la porte pour 2026?
Oh ben là, vous allez loin, là. C'est le segment à David.
Oh
ben
là, on t'a fait un thème.
Je suis pas une invitée d'entrevue, là.
On t'a fait un thème pour le pit stop, puis là, finalement, on va apprendre que dans 2-3 semaines, tu vas te présenter aux provinciales.
Ça va être le titre de l'extrait. Jacinthe Varel ne ferme pas la porte pour les élections provinciales de 2026.
Il reste à savoir si vraiment la rumeur est vraie. Elle va-tu vraiment se présenter chez Québec solidaire?
Ben, c'est ça, là.
Vraiment, si tu rentres dans leur église, tu brûles.
Je pourrais remonter leur parti. Non, mais je pourrais prendre le parti puis le faire virer à droite bien comme il faut.
C'est la mode.
Ça remonterait dans les sondages.
On nous dit que Gabriel Nadeau-Dubois était un peu écœuré d'avoir des débiles profonds dans son parti et leur aurait dit, savez-vous quoi, si on reste à cet endroit-là, à gauche, on n'aura jamais une possibilité de prendre le pouvoir. Ce serait le fun de se ramener peut-être un peu plus au centre, ce qui est à mes yeux, à moi, la raison. Puis c'est quelque chose qui a été refusé par les dirigeants de Québec solidaire. Mais il y aurait peut-être pu avoir plus de députés aux prochaines élections.
Ah, puis au-delà des dirigeants, c'est surtout les membres. Ils sont beaucoup de... Comment les appeler, des débiles? Moi, je n'irais pas là, là.
Les membres, c'est pas les débiles. Mais dans toutes les parties, tu en as.
Oui, mais
tu en as
beaucoup.
On a parlé du Parti conservateur. Il y a une base dans le Parti conservateur qu'on peut voir ces réseaux sociaux qui sont vraiment méchants, ces réseaux sociaux.
Ouais.
On avait parlé des gens qui étaient pour l'opposition, le respect citoyen. Il y a une base chez Respect citoyen qu'eux autres, tu ne peux pas leur dire hey, ce que tu es en train de faire là, d'insulter les gens, avoir des propos ignobles à ce genre. Tu peux pas faire ça. Eux autres, tu peux pas les contrôler. Là.
Mais j'ai l'impression que chez QS, sont beaucoup, sans être tous des débiles légers, là, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup à vouloir.
C'est plus des
rester...
commentaires débiles que un diagnostic sur la personne.
Ils sont beaucoup de ces individus-là à vouloir rester très à gauche.
Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui va les aider chez Québec solidaire d'être à l'extrême gauche. Là.
Non.
Tu sais, tout comme un autre parti où les gens seraient à l'extrême droite. Là.
Mm-hmm. Non, c'est sûr. Mais c'est ce qui fait aussi que tous les partis tendent vers le centre et qu'à un moment donné, ils se ressemblent tous beaucoup.
Ouais.
Et qu'il n'y a plus beaucoup d'éléments qui les différencient à part leur chef. Et les promesses qui, finalement, ne sont pas toujours remplies une fois élues. C'est parce qu'on essaie toujours de plaire au plus grand nombre, mais pour plaire au plus grand nombre, ben, tu restes au centre, puis ça fait que ça manque de saveur un peu.
Oui, ça goûte
fade. Ça manque de saveur.
Parlant de saveur, j'ai le goût de citer Charles de Gaulle qui disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage en parlant de la France? »
Ouais.
Québec solidaire, c'est un peu la France, parce que c'est pas des fromages, mais dans le sens qu'ils ont tous leur petite volonté personnelle, puis c'est un parti qui marche beaucoup avec les assemblées et les votes de membres, sauf quand il y a quelqu'un qui veut se présenter qui a le mauvais sexe, puis finalement, ça va passer pour cette fois-là. Mais c'est un peu comme le PQ a déjà été, puis il est encore un peu là, un pays beaucoup moins centralisé.
Ben oui.
Puis un parti beaucoup moins centralisé, puis là, ça finit qu'il y a tellement de voix qui se prononcent sur les destinées du parti, que ça finit qu'il s'en va nulle part. Mm.
Mais c'est des choses que vous jasez dans un parti politique, là, quand vous faites partie intégrante d'un parti politique, les militants, les activistes les plus extrêmes, est-ce que c'est des gens que vous voulez tasser ou ils représentent tellement une armée incroyable que vous gardez ça à l'intérieur du parti?
Ben, tu sais, dans la vie, t'as de l'autorité puis de l'influence. L'autorité, c'est que t'as vraiment un pouvoir d'agir, puis de l'influence, c'est que t'as pas nécessairement le pouvoir de le faire, mais t'as de l'influence pour arriver à tes buts. Puis dans les partis politiques, t'as tout le temps les deux. Donc, dépendant comment que les règles du parti sont faites, il y a des gens qui ont un vrai pouvoir de décider, que ce soit le chef ou les instances locales, les comtés, etc. Mais ceux qui ont la vraie influence, c'est souvent pas nécessairement ceux qu'on voit en avant qui ont vraiment l'autorité de le faire. Puis ça, ben, les partis politiques, souvent, ils vont perdre leur alignement quand les gens qui ont trop d'influence n'ont pas nécessairement l'autorité d'aller mener à bien leur projet, là.
Ah, puis les partis politiques reposent aussi beaucoup sur du bénévolat, sur de l'implication bénévole de gens passionnés. Et quand t'es bénévole, les plus passionnés, ils ont un peu d'extrémisme dans leur position quand ils sont très, très radicaux. Mais en même temps, qu'ils apportent énormément aux partis, ça fait que les partis politiques sont un peu coincés à respecter ce membership-là, ces membres qui sont importants dans l'espace qu'ils prennent et la contribution qu'ils apportent au parti.
Parce que j'avais cette discussion-là avec,
J'avais
cette discussion-là avec Denis aussi dans le Pit Stop. Puis, tu sais, on avait à peu près la même opinion, là. Tu sais, les activistes et les militants radicaux, de peu importe le parti, sont une nuisance sur les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Puis je me dis, exemple, tu sais, on parlait avec Éric Duhem tantôt, fait qu'on va prendre la gang à Duhem. Ben, il y a peut-être 4-5 radicaux là, de la gang à Duhem qui vont être très vocales sur les réseaux sociaux. Puis là, quelqu'un qui serait porté à dire, hey, je le trouve intéressant, moi, Éric Duhem, ses nouvelles idées de centre-droit, réduire le gouvernement, réduire les impôts, enlever la taxe carbone, je trouve que ça a du sens. Ben, si tu vois tout le temps les cinq mêmes qui font mal paraître ce parti-là, tu dis, attends un peu, veux-tu m'associer, moi, à ce parti-là?
Ouais.
Je suis pas comme cet individu-là.
Ouais, pis c'est souvent les plus vocaux qui sont les moins engagés physiquement dans le développement du parti. Parce que t'as vraiment raison, Jacinthe, de parler des bénévoles. C'est ça qui tient un parti politique, surtout naissant, comme le PCQ. Ben, il est pas naissant, mais en tout cas, il est émergent. Là. Ça te prend des paires de bras. Ça te prend des gens qui mettent l'épaule à la roue, qui vont faire des appels en campagne électorale, qui vont chercher des dons aussi. Ça, c'est bien important parce que on dira ce qu'on voudra. L'argent politique a encore beaucoup, beaucoup d'influence. Donc, c'est tes vrais bénévoles qui travaillent bien fort, là, puis je pourrais en nommer plein, là, des gens que j'ai en tête dans toutes les parties. Eux, souvent, sont discrets. On les voit pas. Puis sur les réseaux sociaux, ils s'abstiennent un peu de prendre des positions autres que celles du parti. Puis comme tu dis, Marceau, t'en as qui sont très, 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 très vocaux. Puis eux, ils veulent se faire entendre parce que des fois, ils rêvent d'eux-mêmes être le chef du parti, être le calife à la place du calife. Ou au contraire, ils veulent juste exister dans leurs différences au sein d'un regroupement. Parce que exister en 2026, là, c'est bien important. Là. Sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois différent, il faut que tu sois en grosse nuance, il faut que tu sois pas en nuance, justement en opposition. Donc, quand tu es dans un parti politique, tu veux t'opposer, dans le fond, au mainstream. Tu veux exister de cette façon-là. Puis ça, c'est souvent des militants qui sont toxiques pour le parti, très visibles, mais très peu efficaces et utiles sur le terrain.
Oui, puis beaucoup de gens aussi qui s'imaginent qu'ils feraient mieux à la place de quelqu'un aussi.
Ouais.
Qui a,
on
qui
est beaucoup
rôle,
dans les estrades quand on regarde une game d'hockey à dire pourquoi il a fait la passe à ce joueur-là. Moi, si j'avais été lui, j'aurais fait la passe à ce joueur-là. Il aurait eu plus de chances de marquer. Mais concrètement, si on te met toi sur la glace, ça se peut que tu fasses encore pire parce que t'es pas un joueur d'hockey.
Quand j'étais candidate dans Portneuf, là, il y a vraiment des gens qui ont dit si ça avait été moi la candidate ou le candidat à place de Jacinthe Varel dans Portneuf, je serais rentrée. Il y a vraiment des gens qui croyaient foncièrement qui aurait rentré. Mmh.
Puis en 2026, ça va être où?
Mais ça t'a-tu affecté, ça? Je suis curieux, parce que moi,
ben
je
oui,
suis jamais
absolument,
présenté.
Là. Absolument. Ben, ouais. Tu te donnes corps et âme, puis t'arrives avec ton bagage, puis c'est ta face sur les poteaux. C'est toi qui mets tout ton jus, puis t'as des espèces de gérants d'estrade qui s'imaginent qu'ils auraient fait mieux.
Pis c'est drôle, cette question-là, David. Pourquoi tu poses cette question-là à Jacinthe, à savoir si ça l'a affecté, les commentaires négatifs?
Ben parce que je m'intéresse à l'humain, je m'intéresse à la personne. Je trouve que c'est une personne riche et qui veut exprimer ce qu'elle a senti. Non, j'ai zéro intention de me présenter Marceau, sérieusement, 0-0.
Toi, Marceau, pourquoi tu poses ces questions-là?
Parce que moi, je sais très bien que jamais ça arrivera. Là. Ben, jamais ça arrivera. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai été approché dans les dernières semaines pour être staffer, puis j'ai demandé le salaire. Puis c'est des bons salaires, sérieux, pour rien faire, là. Ça doit être le fun.
Non, hey, c'est pas pour rien faire. C'est pas pour rien faire.
Tu veux-tu qu'on
flippe
la table, là?
Non, c'est des jobs de fou.
Ouais. Ah ouais. Non, c'est...
Ma job, c'est de faire réagir.
On va être les deux à flipper la table chacun de notre bord, là.
OK. Tiens, premier sujet. Ben, deuxième sujet, en fait, parce qu'on vient d'en faire
un. C'est un bon sujet, là.
On est-tu en mesure d'amener l'armée canadienne en Iran?
Non.
OK. Pourquoi Mark Carney parle comme si on pourrait amener des soldats canadiens là-bas? On est déjà à la limite de nos capacités, là.
Ben c'est ça. Il y a un article dans la presse ce matin qui est très parlant parce qu'il y a des...
Je rappellerai que dans les bases militaires canadiennes, là, ceux qui font la sécurité, c'est des agents de sécurité.
Ouais.
Donc, des gens qui sont pas armés qui défendent les gens qui sont armés en arrière. Si tu vas à base militaire de Valcartier, là, c'est, je sais pas si c'est le cercle des commissaires, de bon. Mais si tu vas à base militaire de Valcartier, c'est des agents de sécurité qui sont là.
Pas armés?
Non.
Ah! Mais,
si tu vas ici en haut en ville, là, on avait été faire du laser tag, moi puis Max, et l'agent de sécurité est là, dans sa petite boîte, puis elle surveille les gens qui passent. On est une armée en jupon.
Mais il y a aussi un peu un laxisme de sécurité sur nos bases en période de paix, là, parce qu'il y a littéralement une route civile qui passe à travers la base militaire de Valcartier.
Ouais. Donc, là, qui était fermée après les attentats du 11 septembre, ils l'ont fermée pour de bon, puis après ça, dans les dernières années, ils l'ont rouvert.
Ça fait un pas pire détour si tu la fermes, on se comprend. Là, c'est une artère importante, mais ça reste que tu peux passer avec ton auto à travers une base militaire, tu verras jamais ça aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Dans ceux qui prennent leur armée au sérieux. Là.
Ouais.
Fait qu'on revient à l'article de la presse.
Oui.
Des hauts gradés qui nous disent « Hey, en ajoutez pas ça à la pile, on est pas mal déjà au maximum de notre capacité. » Puis là, je disais ça ce matin, on se l'a échangé. Puis là, j'étais comme « Notre capacité, capacité quoi? » Fait que là, regarde nos missions actives. On a quelques centaines de personnes en Lettonie. C'est un en bon français, parce que je suis un gars d'anglicisme, là, un show of force. Donc, on va là-bas pour montrer qu'on est là. Ils travaillent à tous les jours. Là. C'est des gens honnêtes, nos soldats, qui participent à la mission qui sont donnés. Mais en gros, on s'accote sur le frigidaire et on dit « Hey, le beau-frère, moi, je suis là. » Fait que c'est un peu ça qu'on fait en Lettonie, c'est de démontrer à Vladimir Poutine que l'OTAN est engagé dans la région puis qu'on se laissera pas piler ses pieds, etc. C'est la seule mission active qu'on a, qu'on connaît. Là. Évidemment, nos forces spéciales, le fameux GTF-2, puis bon, tout ça, ça peut aller un peu partout dans le monde, mais on le saura jamais. Donc là, si le maximum de nos capacités, c'est d'envoyer une couple de centaines de personnes aller s'accoter sur le frigidaire en Lettonie, ça va pas bien à la shop, mon ami Marceau. Donc là, évidemment, on a annoncé 500 milliards d'investissement dans l'armée canadienne avec M. Carney dans les 10 prochaines années, si je me trompe pas. On va acheter des F-35, on va acheter des sous-marins, on va acheter des armes légères, des munitions, de l'artillerie. Tu sais, on va acheter de la quincaillerie. Mais probablement, ça va être long parce que le processus d'approvisionnement de l'armée canadienne est extrêmement douloureux, on va se le dire. Là. Les F-35, ça fait combien de temps qu'on parle de ça? Ça doit faire 15 ans. C'était dans le temps de Stephen Harper qu'on a commencé à jaser de ça. Puis là, rappelons-nous que Justin Trudeau est arrivé. Il a dit c'est le pire deal de l'histoire. Il a cassé ça. Puis finalement, on va refaire la même affaire. Donc là, des processus d'approvisionnement de sous-marins qu'on achètera en Corée du Sud, puis tout ça, là, ça va prendre des années et des années. Fait que mon point, c'est juste de dire que la capacité militaire du Canada est faible pendant très longtemps, puis c'est pas parce que les gars et les filles sur le terrain travaillent pas fort, c'est parce qu'ils ont rien dans les mains pour le faire. Puis ça, c'est inquiétant. Parce que, tu sais, on se parlait d'aller en Iran. Là. On peut envoyer une frégate, 2-3 F-18. On participera pas vraiment parce qu'en ce moment, le gros de la mission, c'est bombarder des sites qui sont de moins en moins protégés, mais quand même en lieu hostile. Nos F-18 sont zéro furtifs, on se comprend. Là, ça date des années 90. On n'a aucune capacité d'interception de missiles non plus. Là, zéro, là, on s'en est parlé cette semaine. On n'a pas de missiles Patriot. On a rien. Là, on n'a pas de Iron Dome, rien de ça. Donc là, on va aller là pour participer. On n'a pas de missiles balistiques non plus. Fait que là, qu'est-ce que tu vas aller frapper? T'sais? Fait qu'on va avoir des bateaux dans le golfe de l'Arabie, puis on va être là. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment. On est là.
Trump s'est fait poser la même question, à savoir s'il allait envoyer des soldats américains directement en théâtre de guerre, puis il a dit que ça servait à rien.
Ben en fait, il a changé d'idée, parce qu'il a dit il y a quelques jours, « Hey, je ferme pas la porte d'envoyer des soldats », puis on a vu des affaires sur les réseaux sociaux, des navires de transport de troupes qui loadaient des Marines à la pleine porte, quasiment comme si ça avait l'air d'être un nouveau plan en panique. Là, finalement, il revient en disant, « Ouais, finalement, pensez à ça, puis ça vaut pas trop la peine ». Puis, sais-tu quoi, je suis assez d'accord avec lui. Là. Ouais.
Mais ça va être des guerres aériennes là, dans les 10, 15, 20 prochaines années. Là, ça va être des guerres aériennes. Ça va être des drones, ça va être des avions, ça va être... Il n'y aura plus personne directement sur le terrain.
Ben, oui, là, ça dépend quel type de guerre. Parce qu'en Ukraine, en ce moment, c'est 100% une guerre terrestre. Là.
C'est des guerres de tranchées, même. Ouais.
Hein? Oui, absolument. Puis ça, c'est en train de...
C'est une itinerie, là.
Ben, c'est une boucherie aussi parce que, tu sais, on a beaucoup changé comment la guerre est menée en Ukraine parce que, justement, il y a des tranchées, parce que là, c'est un front qui est assez statique, fait qu'il faut que tu te protèges, mais constamment, t'as des drones de surveillance puis d'attaque dans les airs, fait que dès que tu lèves le petit doigt, t'es une cible, il n'y a plus de mouvement massif de blindés puis de transport de troupes, puis tu sais, ils vont s'en servir pareil, mais loin du front, puis tu te déplaces la nuit puis t'espères qu'il n'y ait pas trop de drones avec des détections thermiques dans le coin. Pis ça, 0-0, que le Canada est prêt à faire ça. Là. Demain matin, on envoie nos soldats en Ukraine, on veut pas ça. On n'est pas capable de faire cette guerre-là. Puis même, l'Ukraine a envoyé des aviseurs d'opérations de drones dans l'armée américaine pour aviser par rapport aux drones en Iran. Là. Donc, là, de se protéger contre les drones iraniens, puis aussi d'avoir des capacités d'attaque, parce que les États-Unis ont développé ça rapidement. Là. Donc, c'est rendu que l'Ukraine est aviseur militaire pour le reste de la planète. Puis ça, c'est quand même paradoxal parce qu'au début de la guerre, c'est ça qu'on faisait pour eux. On envoyait des aviseurs pour leur dire comment mener la guerre. Puis la star, c'est eux autres qui nous disent « Hey, buddy, ça fait 4 ans là, que j'étais en guerre active, puis même la Crimée dans le temps. Donc là, écoutez-moi parce que moi, je sais c'est quoi la vraie guerre de demain. » Puis c'était peurant, là. Tu veux pas aller au front.
Ben, je voudrais pas être un militaire au sol puis entendre des drones qui s'en viennent. J'aurais pas l'impression que je pourrais me battre contre des drones.
Ah.
Puis là, de plus en plus, l'intelligence artificielle, les robots qui se développent. Il y a des robots qui se développent pour aller sur le terrain, en théâtre de guerre, puis lutter contre des soldats, je sais pas moi, des soldats russes. Je veux dire, le soldat russe n'aura jamais la vision du robot. Il n'aura jamais la dextérité du robot. Non. Il sera jamais aussi précis que le robot. Fait que c'est pour ça que je te disais, moi, dans 50 ans, je pense plus qu'il y ait des gars qui soient directement sur le terrain. D'après moi, ça va être que des robots avec de l'intelligence artificielle. Parlant d'intelligence artificielle, je parlais avec Maître Bellemare, qui est mon collaborateur, chaque lundi dans Marceau Soir. Puis lui, il me mentionne que cours des petites créances, des cours municipales, cours criminels, l'intelligence artificielle commence à être partout. Il y a des gens qui ne se font pas représenter par un avocat, mais qui ont l'impression, avec ChatGPT, qu'ils sont capables de se défendre sans payer un avocat. Ça crée de la confusion en cours épouvantable. Puis, ce que tu me mentionnes, c'est que dans un procès qui a lieu à Québec, l'intelligence artificielle aurait été utilisée, quitte à même inventer des jurisprudences.
Par le juge. C'est ça qui est assez incroyable là-dedans. Comprenons bien, je suis pas juriste, moi je suis un gars qui a lu une nouvelle ce matin. C'est le procès là, de Robert Giroux dans l'histoire de Stéphane Huot. Puis bon, on a suivi ça avec attention. Dans le jugement qui a été rendu de 500 quelques pages, le juge cite des jurisprudences qui n'existent pas. Parce qu'on le sait, là, mettons ChatGPT, puis Claude, puis tous les autres, ils vont des fois halluciner, là, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en gros, ils vont inventer des choses pour remplir le texte.
Un exemple. On parle du juge Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure du Québec.
Dans Crawford contre Crawford McGregor, la Cour suprême du Canada précise qu'aucune clause contractuelle ne peut exonérer un fiduciaire de sa négligence grossière ou de ses manquements fondamentaux à la transparence et qui le magistrat au paragraphe 134 de sa décision afin d'étayer son jugement. C'est ce qu'on lit dans la presse. Et là, on dit le problème, c'est que la Cour suprême du Canada n'a jamais rendu de jugement dans Crawford contre Crawford McGregor. Cette affaire n'est pas allée au-delà de la Cour d'appel.
Il y a des clients qui utilisent ChatGPT. Là, c'est rendu que le juge aussi utilise ChatGPT.
Il utiliserait. Il n'y a rien de prouvé.
Oui, effectivement. Mais en tout cas, ça a l'air à pointer vers ça. Que le client le fasse pour se défendre, c'est ton choix. Mais si tu sais des choses qui n'existent pas puis tu te fais ramasser par le juge, ben il vit avec la conséquence de tes gestes. Que le système judiciaire, incarné par un juge dans l'occurrence, fasse la même chose, ça, c'est inquiétant. Là. Parce que le fond de ce qu'on en lit dans l'article, puis encore une fois, je ne suis pas juriste, mais le fond de la cause reste le même. Là. Je pense que le jugement semble être encore valide. Mais quand tu lis quelque chose qui n'existe pas, puis on l'a, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Moi, je l'ai déjà vécu avec Claude parce que je produisais des mémoires là, pour déposer au gouvernement, tout ça. Puis là, il me produisait un texte, puis je lisais ça, puis j'étais passionné par le texte qui m'a sorti. J'étais comme, c'est exactement ça que ça prend. Les sources sont vérifiables. Je vais voir la source, elle n'existe pas. Fait que là, je parle avec l'IA, puis je dis, dude, pourquoi tu m'as cité quelque chose qui n'existe pas? Ah, tu fais bien de me le dire. C'est vrai que j'ai inventé des faits, voici une vraie source vérifiable. Je suis comme, fuck, man, pourquoi tu l'as dit au début,
ouais,
tu sais?
Ouais.
Fait que là, j'ai comme codé, si tu veux, mon ChatGPT pour qu'il me sorte juste des sources vérifiables. Puis là, en ce moment, ça marche quand même assez bien. Mais tu sais, aller chercher de la jurisprudence dans des banques spécifiques, il y a des logiciels d'IA qui se développent là, pour aller justement gratter la jurisprudence. Mais tu peux pas faire, même un juge, même n'importe qui d'autre, là, tu peux pas faire confiance aveuglément à un logiciel comme ça en disant « Ah, oh, ça doit être vrai ce qu'il y a mis là, ça look bien. »
Parce qu'on a nommé un exemple, puis tu sais, ce qu'on dit dans le texte, c'est si c'était juste une affaire, ça peut arriver quelqu'un qui se trompe. Là, c'est que des exemples comme ça, de genre d'affaires de « Ouais, il y a une partie des faits qui sont vrais, mais le reste, on dirait qu'il y a des affaires inventées. » Il y a comme une couple d'exemples dans le jugement, fait que ça ressemble drôlement à de l'intelligence artificielle.
On dit que ça comporte des anomalies rappelant les hallucinations associées à la rédaction assistée par l'intelligence artificielle. Il y a certains passages qui citent des propos prétendument verbatims qui ne figurent nulle part dans la preuve et le juge fait référence à de la jurisprudence qui est inexistante. Les juges au Québec gagnent extrêmement cher, là, puis les avocats gagnent extrêmement cher. La moindre des choses, David, c'est que ces gens-là soient capables de vérifier, là, qu'ils soient aidés par l'intelligence artificielle. J'ai aucun problème avec ça. Mais eux, spécifiquement doivent vérifier les choses, parce que c'est la vie de certaines personnes qui est en danger là-dedans.
100%, puis j'ai hâte de voir si là où la juge en chef, là, je sais pas c'est qui en ce moment, va se pencher sur la question, parce que ça pose quand même une question fondamentale, tu sais, à quel point... Parce que là, dans le fond, c'est des gens avec beaucoup de sous. Le Robert Giroux, il a encore sûrement plein d'argent dans les poches, puis les gens qui poursuivaient, c'était les millionnaires, là, donc ils ont de l'argent pour poursuivre aussi. Donc, ils ont les moyens de faire l'analyse de la décision puis d'aller chercher tous les points comme ça, parce que forcément, ils veulent aller en appel là-dedans. Mettons, moi ou toi, Marcel, on s'en va en cours, puis on se fait clencher sur quelque chose, puis on lit le jugement de 550 pages, puis là, ça cite de la juriste, puis on n'a pas accès aux bases de données. Comment tu veux qu'on détecte ça? Fait que là, je suis pas en train de tout remettre le feu dans le système judiciaire québécois, mais ça soulève quand même un questionnement sur l'éthique à long terme, puis la protection du simple citoyen là-dedans, puis le rôle du barreau, puis des juges en chef là-dedans, c'est important, là.
Bien, on va voir en tout cas si les juges et le système judiciaire ont déjà tiré des leçons de ça. J'imagine que oui, là, une fois que ça sort comme ça, les gens deviennent très vigilants. Mais parlant de tribunaux, c'est aujourd'hui, je fais juste vous le mentionner parce que c'est important, la Cour suprême du Canada va statuer aujourd'hui si les enfants des demandeurs d'asile devraient avoir accès au CPE puis aux garderies subventionnées. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va avoir cette décision-là qui est quand même... attendu depuis longtemps, parce que en ce moment, la Cour va déterminer si Québec discrimine illégalement là, les parents, les femmes demandeuses d'asile en les excluant d'avoir accès à des services. Ah,
c'est intéressant, on va suivre ça sur les zones de boulevard. C'est un autre sujet, mais comment un avocat peut me charger 500-600$ de l'heure?
Ah, il y en a à 1000$ de l'heure, Marceau.
Bah.
Comment Max, là? Je prends Max, là, qui commence là, sa carrière et tout ça. Là. Il arrive à un litige avec son ex-conjointe, puis là, ben, elle dit ben, « Prends-toi un avocat », puis elle va se prendre un avocat. C'est rendu inaccessible.
Bien, ça dépend lesquels. Quand tu es à 500-600$ de l'heure, tu es un avocat senior dans un bureau de prestige à Québec. Là. C'est pas juste des avocats à 500$ de l'heure, tu en as à 125-150$ de
l'heure. Tu sais, quand il te dit « Envoie-moi un courriel », là. Lui, dès qu'il l'ouvre, là, il charge.
Ah oui, parce que les avocats sont spécialistes de charger des 10 minutes.
Oui!
Ah oui, oui.
10 minutes pour ouvrir le courriel, lire puis fermer le courriel, mettre ça au dossier, ça coûte extrêmement cher. La justice va-t-elle être accessible pour tout le monde?
Bien, c'est justement peut-être pour éviter des gros frais comme ça qu'il y en a qui ont essayé de couper les coins, tourner les coins.
Breaking news! Ben ouais. Ça vient juste de ma tête, là. Je suis persuadé que même si l'intelligence artificielle l'a aidé, que ça y a sauvé des heures et des heures et des heures de recherche, il les a chargés pareil.
Ah ouais.
Mais les juges, c'est un peu différent parce qu'ils ne facturent pas à la cause.
Je parle des avocats.
Oui, les avocats, ça c'est vrai, mais les juges, dans le fond, ils ont un caseload, puis il faut juste qu'ils essayent de tout faire. Là, puis je pense pas qu'on a un système juridique extrêmement riche en ce moment. Là, il manque de ressources partout, comme dans tout ce qu'on fait au gouvernement au Québec en ce moment. Mais pour les avocats, c'est sûr, tu sais, je veux dire...
Mais la justice, parce que ma question, c'est ça. La justice va-t-elle être accessible à tout le monde? Demain, ouais. Là, elle va-tu être accessible à tout le monde? Quand un avocat peut charger 500$, 1000$ ou 5000$
mais elle n'est pas accessible. C'est pas « vas-tu être accessible? » Elle n'est pas accessible à tout le monde depuis longtemps.
Pas tous les avocats qui acceptent des forfaits.
Mais ben non.
Puis tu sais, il y a des systèmes comme Juripop, là, des OBNL qui veulent aider les gens, puis que si tu les appelles, ils peuvent te donner des ressources. Il y a l'assistant juridique aussi là, dans le système qui va te donner un avocat, mais un avocat qui a... Trop de charges de travail.
Ouais, ou qu'il n'y a pas assez d'expérience encore pour travailler pour un cabinet puis charger à l'heure.
Exact. Fait que tu sais, il y a une réflexion là-dedans. C'est une réflexion fondamentale, là, l'accès au système de justice. Parce que s'il y a bien une chose qui devrait être accessible, transparente puis équitable pour tout le monde, c'est le système judiciaire.
Oui. Puis heureusement, là, pour ce qui est des couples, mettons qu'un jour, on a un collègue qui est en couple pendant plusieurs années puis qui décide de bâtir sa famille, qui a des enfants et tout ça. Maintenant, tu as 5 consultations avec un médiateur. Pour ce qui est des séparations, puis la négociation de la pension alimentaire et tout ça, ça, je pense que ça a sauvé le cul de bien du monde. Ouais, parce que déjà, une séparation, c'est raide, ça peut être raide financièrement. S'il faut en plus que tu te payes un avocat pour régler un litige avec l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe, puis la garde des enfants, tu t'en sors plus.
Bien, ces rencontres-là ont bénéficié à ceux qui avaient l'intérêt convergent de régler rapidement sans passer par les tribunaux.
Ouais.
Ça prenait la bonne volonté quand même des deux parents pour profiter de ces 5 rencontres-là et conclure. Parce qu'il y a plein de cas où un des deux parents ou les deux n'ont pas cet intérêt convergent, puis les 5 rencontres de médiation passent, puis ça se ramasse dans les tribunaux, puis là, ça coûte cher. Ouais.
Ça arrive pas, ça, des ex qui se chicanent. Ça arrive pas, ça.
Non, ben non, ça arrive pas. Mais Maître Bellemare m'avait dit, la meilleure des ententes, c'est quand les avocats sont capables de s'entendre avant de passer devant le juge. Puis la meilleure des ententes, c'est quand il n'y a pas d'avocats qui sont mêlés dans le dossier.
Ben oui.
Tu vas tout le temps t'en sauver un peu plus.
Puis tu sais, il y a toutes sortes d'avocats. Il y en a des excellents qui sont extrêmement éthiques. Puis tu sais, je veux dire, j'en connais personnellement qui voudront toujours faire la bonne chose. Mais il y en a qui veulent étirer des causes aussi parce que c'est payant. T'sais, quand tu te chicanes avec quelqu'un, puis les avocats embarquent, puis ils disent « Ouais, mais tape-le, on va aller essayer ce truc-là, là, parce que j'ai une juriste qui va me démontrer ça. » Puis ben, ils bâtissent une cause un peu tirée par les cheveux pour essayer d'avoir une cause, puis d'aller en cours, puis ils te le vendent. « Hey, on va gagner, tu vas voir. » Puis finalement, le juge est comme « Dude, ça n'a rien à voir ce que tu viens de nous dire là. »
Ça arrive-tu, ça, David?
Ben oui, certain que ça arrive, là. Mais c'est pas la majorité des avocats. Là,
parce que des fois, j'ai l'impression que c'est juste moi qui pense sale. Tu sais. Que l'avocat puisse te monter une affaire pour avoir le plus de jobs possible pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je me dis, c'est à son avantage. Mais si tu fais cette job-là, c'est pour défendre le monde, c'est pas pour leur vider les poches.
Je suis d'accord avec toi, sauf que tu sais, t'as
la
comme...
La fin justifie les moyens.
T'as tous les leviers quand t'es avocat, parce que tu décides la stratégie que tu vas avoir face à la partie opposée.
Ouais.
Puis tu sais, souvent, t'as des négociations. Ça dépend c'est quoi, là, quand c'est du criminel, c'est pas pareil, mais mettons qu'on est dans le civil, puis on prend le monde des affaires, parce que c'est souvent ça, là. T'as l'opportunité, en début de chicane, si on veut, d'avoir des discussions intelligentes, puis de dire, regarde, on va couper la poire en deux, puis on va faire ça comme ça, puis that's it. Puis t'es même peut-être pas obligé d'impliquer les avocats, mais mettons qu'ils sont dedans, les avocats peuvent être raisonnables, puis de dire, regarde, on va trancher à cet endroit-là, puis ça fait-tu l'affaire à tout le monde. Mais quand tu décides de rentrer tes talons dans le sable, puis de dire, non, on va chicaner pour vrai, là, le compteur, il part, puis là, tu peux te chicaner longtemps, là, parce que tu peux juste. Tu sais, des fois, il y a des documents pour revision, là, ils sont bien forts là-dessus, les avocats, puis là, ça s'échange, puis ça s'ostine sur des virgules, puis littéralement des virgules, puis des. Quel mot on utilise, que dans la vraie vie, finalement, quand tu vas te chicaner, tu sais, dans des négociations de contrat, je veux dire, mais quand tu vas te chicaner, une fois que ce contrat-là est en vigueur, puis tu vas te rendre devant le juge va s'en foutre éperdument de la virgule que tu t'ostines pendant 4 heures, que tu vas facturer 500$. Là. Il va s'en foutre, là, parce que c'est quoi le fond du litige? C'est ça la question. Fait que se négocier des contrats puis de rendre ça compliqué, il y en a qui sont spécialistes là-dedans, mais ça facture pour eux.
David, c'est ton dernier pit stop de la semaine.
Oui, mon cœur saigne.
Tu as remplacé Denis à main levée.
Avec brio.
La
avec
légende. Brio.
Merci beaucoup de l'avoir fait. Tu sais à quel point je t'apprécie. Je te le dis en ondes en plus. Tu fais vraiment une belle job. Tu es vraiment un bon collaborateur. Normalement, tu es un chroniqueur international, mais on voit que tu es capable de jaser de tout et de rien. C'est vraiment nice.
T'es bien trop smart.
Non, mais c'est vrai, c'est la vérité.
T'es un bon gars, Marceau. On te l'a-tu déjà dit? Moi, t'as renvoyé des fleurs. On t'a-tu déjà dit?
Je déteste quand on me dit ça.
Parce que sais-tu quoi? Je vais le dire en nom. T'es le premier qui m'a donné une chance d'avoir une chronique à quelque part.
Bon, je Saint-Ève. Tu reviens vendredi prochain. David sera pas là, j'espère.
Non, mais pour vrai, je veux juste le dire, tu sais, sur une autre station, t'étais le premier qui m'a donné un micro parce que j'avais fait une chronique dans le Huffington Post dans le temps. Puis sur la cimenterie à Port-Daniel qui allait se rentabiliser en 250 ans. Puis t'es le premier qui l'a fait.
On se souvient toujours de ça, hein, la personne qui nous a tendu la main puis qui nous a offert notre première chance.
T'es mon premier, Marceau.
Ouais. Ça s'oublie pas.
Ouais.
Je suis son premier. Je suis content qu'il l'ait expliqué avant pourquoi j'étais son premier.
Ouais,
c'est ça. Merci, David Chabot. C'était un plaisir. Jacinthe, tu vas être dans le pit stop vendredi prochain. Puis Denis, il revient lundi. Il est 8h25, vous avez des choses à me dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021.
Marceau le matin.